Salut à vous! On est déjà rendu au dernier épisode de la saison, donc le 20e. Je pense qu'à ce jour, je me rapproche de 50 épisodes total. Je suis vraiment heureuse de tout le parcours accompli jusqu'à maintenant. Mais en fait, ce qui me comble le plus de bonheur avec les épisodes de podcast, c'est à quel point c'est enrichissant pour moi d'avoir ces belles discussions avec des invités passionnés. Donc, j'espère que ça l'est tout autant pour vous. J'ai fait des rencontres magnifiques, mais j'ai aussi tellement appris. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je m'entretiens avec une jeune femme entrepreneure tellement inspirante. C'est drôle parce que je vous fais une petite confidence. Il y a un sujet sur lequel moi et mon chum, on s'entend pas du tout, puis on s'ostine parfois. Lui, il trouve que les jeunes, puis là, je dis les jeunes, j'ai vraiment l'air vieille quand je dis ça, mais je viens d'avoir 34 ans, en fait, une autre confidence. Confidence sur confidence. Écoute, vous êtes gâtés aujourd'hui. Puis, il a l'impression que la génération en dessous de nous, c'est une génération qui veut pas nécessairement travailler, qui rêve d'être influenceur, et qui apprend pas la rigueur du travail à cause un peu du marché actuel dans lequel on est. Puis de mon côté, ben j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes tellement inspirantes, des jeunes éduqués, engagés, communicateurs, inspirants. Puis c'est quand je rencontre des personnes comme Andrea que ça confirme tellement ma pensée. Andrea, c'est une belle jeune femme de 25 ans, là. Peut-être que vous vous dites, mon Dieu, elle n'est pas si jeune que ça. Effectivement, elle n'est pas si jeune que ça, mais elle est comme la génération sous moi, finalement. Puis, elle a fait de sa mission, ses valeurs, son emploi. Puis aujourd'hui, elle a une très belle entreprise. Puis ce que je trouve cool, c'est qu'elle mise vraiment sur l'éducation. Puis c'est une jeune femme qui a le désir de s'éduquer, mais également de partager son savoir avec les autres. Puis c'est vraiment un enjeu. On va parler, vous allez voir, d'enjeux liés à l'environnement, à l'éthique animale, à la durabilité, traçabilité des produits alimentaires. Puis c'est tellement important, effectivement, parce que c'est facile de vivre dans le déni, de juste continuer à faire des choix qui ne sont pas nécessairement les meilleurs, juste parce qu'on ne sait pas, mais peut-être qu'on ne veut pas savoir, en fait. Puis, tu sais, ça m'a fait réaliser cette belle discussion-là que quand on parle d'environnement, puis d'enjeux liés à la planète en lien avec l'alimentation, ben la solution ne se trouve pas toujours dans l'alimentation végétarienne, tu sais. Peut-être qu'encore une fois, la nuance a sa place. Puis de faire des choix qui sont plus locaux, plus durables, de se questionner sur la provenance de nos produits, mais également comment ont été traités, soit les bêtes, ou comment l'élevage a été fait, ou comment nos légumes ont été cultivés. Je pense que ça nous rapproche de la terre, de la planète, mais aussi je pense que ça nous donne encore plus envie de cuisiner. En tout cas, moi, je sors de cette rencontre inspirée. J'ai le goût de reconnecter avec la terre, avec ce qu'elle a de beau à nous offrir, puis de faire attention pour faire des choix conscients. Puis vous allez voir dans cette discussion, on met pas de côté l'enjeu économique qui ne peut qu'être soulevé quand on parle d'alimentation locale. Mais c'est une question d'évaluer les choses, une question de perception, puis on met pas aussi à l'écart les personnes pour lesquelles c'est vraiment précaire puis vraiment plus difficile de se procurer des produits qui peuvent être malheureusement un petit peu plus dispendieux. Mais je pense que plus on lève la main pour dire que c'est ce qu'on veut comme alimentation, plus qu'il risque peut-être d'avoir des programmes ou des subventions pour faire en sorte que ça devienne de plus en plus accessible. Donc, sur ce, avant de vous laisser à l'épisode d'aujourd'hui, ben, j'ai juste envie de vous souhaiter un magnifique été. Donc, je le souhaite. On va avoir des beaux mois qui s'en viennent dans les semaines à venir. Apparemment que la météo devrait être favorable d'ici la fin du mois de juin. Fait que je vous souhaite un été dans le mouvement qui vous fait du bien. Profitez de la nature, du plein air. Profitez-en aussi pour faire le plein de végétaux qui nous viennent des sols. Les légumes sont tellement bons en été. Puis reposez-vous aussi, hein. On en parle trop peu peut-être, mais prenez le temps de vous reposer. De mon côté, évidemment, je continue à travailler, mais je mets le podcast sur pause pour l'été. Donc oui, j'envisage le fait d'avoir une troisième saison l'année prochaine. Puis je me gâte avec mon conjoint, on s'en va faire un voyage de mountain bike dans l'Ouest. Donc oui, on fait garder bébé pendant une dizaine de jours, puis on s'en va pédaler dans l'Ouest. Fait que sur ce, je vous laisse sur l'épisode d'aujourd'hui, puis ça va être un plaisir de vous retrouver à l'automne. Bye!
Bienvenue sur le podcast Zone Grise. Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et sportive passionnée. Quand j'ai décidé d'aller en nutrition, c'était pour deux raisons vraiment évidentes pour moi. D'abord, parce que je trippe sur le sujet simplement, puis deuxièmement, parce que j'avais plein de questions, j'étais super curieuse, puis j'avais l'impression que c'était vraiment difficile d'obtenir des réponses à mes questions. Finalement, ben, j'ai réalisé que plus que t'en sais, plus que t'as de questions, puis plus que c'est difficile d'avoir des réponses. Sur le podcast Zone Grise, j'invite donc des invités qui ont des discours divergents, parfois même opposés aux miens, tout simplement pour creuser différents sujets. Puis mon objectif, c'est que tu sois en mesure de te faire une tête sur ce qui convient à tes habitudes de vie en fonction de tes valeurs et de tes objectifs. Ma nouveauté pour la deuxième saison, c'est que je vais être accompagnée d'une nutritionniste que j'adore, qui collabore avec moi, Sabrina Lamar, qui va se joindre avec moi à l'animation pour les prochains épisodes. Je vous souhaite une excellente saison. Bonne écoute! Vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 2, épisode 20. Ben oui, le tout dernier épisode de la saison, après quoi je vous laisse pour la saison estivale. Et j'enregistre avec la voix la plus merdique de la saison. J'ai je ne sais trop quoi là, que mon bébé a chopé à la garderie. Garderie qui va une fois ou trois semaines à peu près parce qu'il y a juste une place de remplacement. Mais à chaque fois, il nous ramène des microbes. Fait qu'on va réévaluer la pertinence de ce processus. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis avec Mademoiselle Andrea Bertrand-Gagné, qui est fondatrice d'une merveilleuse entreprise qui se nomme La Réserve Locale. Et aujourd'hui, je suis en sa compagnie pour qu'on jase d'un sujet vraiment intéressant qui est tout ce qui est de l'agronomie durable et locale au Québec. Donc, avant qu'on se lance dans le sujet, bien évidemment, on va découvrir Andrea. Donc, salut ma chère, comment ça va?
Salut, ça va bien, toi?
Ça va très bien, merci. Donc, écoute, je suis sûre que les gens sont curieux de savoir qui tu es et c'est quoi ton entreprise et pourquoi qu'on jase de ce sujet-là ensemble aujourd'hui. Fait que on va commencer directement avec ton parcours. Si tu peux nous en dire un petit peu plus là, sur ce qui t'a amené à te diriger vers ce créneau-là puis ce qui t'intéresse là-dedans.
Ouais, ben en fait, j'ai fondé la Réserve Locale en août dernier. Fait que ça va faire un an cet été. Mais en fait, moi, ça fait pas mal plus longtemps que je travaille sur le projet. En fait, là, moi, je suis sortie de l'université de ma maîtrise en plein temps COVID. C'était comme difficile d'aller sur le marché du travail, là, bien franchement, même si on sait qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Puis j'ai toujours eu envie de me lancer en affaires, plus particulièrement en alimentaire. Je te dirais que je savais pas tout à fait de quoi. Moi, ma famille est en alimentation depuis toujours, bien avant que je naisse. Mon père avait fondé un distributeur alimentaire à Québec. Fait que je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait, de suivre un peu les pas de mon père, puis je vais me dire de mon grand-père aussi, qui avait une poissonnerie à l'époque. Mais en fait, avec les années, là, c'est devenu assez clair pour moi quand j'étais adolescente. Je te dirais même avant ça, là, j'ai commencé à m'intéresser il y a vraiment longtemps à l'environnement, l'impact de notre alimentation, puis beaucoup, beaucoup à la nutrition aussi. Je te dirais que j'ai d'abord été intéressée par la nutrition, assez jeune. Puis en fait, là, c'est vraiment, vraiment en grandissant, puis en entendant de plus en plus de statistiques sur l'environnement, l'impact environnemental de notre assiette, manger local ou manger pas local, on mange quoi pour manger de manière durable. Mon idée s'est faite que si jamais j'avais à me lancer en alimentation, ça allait être pour participer au mouvement qui est en ce moment de manger de manière plus durable, plus responsable, plus en harmonie avec la nature, en fait. Puis vraiment encourager les gens à revenir à la source. Là. Je pense qu'on s'est vraiment éloigné de la base de ce qu'est l'alimentation, de les connaissances qu'on a avec la cuisine, un peu tout là, ce qui est autour de l'alimentaire. Fait que c'est pour ça là, que, en fait, Réserve Locale, là, je me concentre vraiment. En fait, Réserve Locale, premièrement, c'est un site web, donc un marché entièrement en ligne. J'ai pas de boutique à Québec, là, c'est vraiment juste en ligne. On distribue directement à domicile des produits surgelés de fermes locales et de pêche du Québec et du Canada aussi. Puis quelques exceptions à l'international, des pêcheries durables et certifiées. Puis en fait, mon but là-dedans, moi, c'était vraiment d'aider les consommateurs à manger de manière, oui, plus responsable, plus durable, d'encourager les bonnes fermes, puis les bonnes pêches, mais aussi surtout de manger de manière plus locale. Il y a encore trop de produits pas locaux là, qui sont disponibles dans les épiceries. Là. Je pense que j'ai vu dernièrement là, des nouvelles statistiques que c'est même pas encore le tiers des paniers des Québécois là, qui est local, qui est du Québec. Considérant tout ce qu'on est capable de faire ici au Québec, c'est pas assez. C'est encore vraiment trop peu. On est capable de manger beaucoup plus local, d'être beaucoup plus autonome dans notre alimentation. Fait que c'est pour ça là, que j'ai lancé l'entreprise. Puis sincèrement, moi, c'est ce qui me drive là, entre guillemets, à chaque matin, c'est ça, là, c'est la mission. C'est le commerce en ligne, le marketing, puis tout, là, c'est comme c'est mon emploi, là, c'est ma to-do à chaque jour, mais moi, ma raison de me lever, c'est ça. Là, j'ai l'impression de participer à un mouvement, puis je le sens aussi avec les entreprises autour de nous. Il y a quelque chose de beau qui se passe, je veux pas, en ce moment, beaucoup, beaucoup chez les jeunes entrepreneurs. Puis il faut le mettre en valeur, ça. Là, fait que je suis bien fière de ça.
Je trouve tellement que ça boucle bien la boucle parce que je ne sais pas si tu le sais, mais mon premier épisode de la saison, c'était avec Valentine Thomas où on parlait un peu du fameux documentaire Seaspiracy, justement, puis de la problématique de la pêche durable, de la surpêche, etc. Puis on en venait à la conclusion aussi que oui, ça, on. Mettons, même si le consommateur est désireux de faire des choix qui sont plus adéquats, ça peut être difficile là, finalement de se retrouver sur les étalages. Fait que de découvrir une entreprise comme toi, je trouve que ça fait beaucoup de sens parce que moi, j'ai ce désir-là d'acheter plus local, mais des fois, on dirait que je suis un peu comme pris de court, je ne sais pas trop vers quoi me tourner. Puis spontanément, il y a une question qui me vient en tête pour toi. Tu sais, tu parlais justement que tu t'intéressais à la nutrition, à l'environnement, puis tout. Souvent, ce qu'on entend de ce parcours-là, c'est des gens qui vont se tourner vers une alimentation végé. Toi, tu es allée un peu à l'antipode pas nécessairement à l'antipode, parce qu'on est toujours dans le respect de l'animal, de l'environnement, mais as-tu déjà été végétarienne? Puis, tu sais, je sais pas, c'est une question qui m'est venue en tête comme ça en t'écoutant.
Oui, bien évidemment, là, c'est quelque chose qui m'a passé par la tête. Écoute, tu sais, là, tout ce qui est des documentaires, un petit peu alarmistes, là, les classiques là, sur Netflix, là, comme Cowspiracy, Seaspiracy, What the Health, là, toutes ces affaires-là, je les ai écoutées. Je me souviens, je sais pas, ça doit faire comme 6 ans, tout ça. J'étais traumatisée bien raide, moi aussi. J'ai fait un genre de 3 semaines végé. Tu sais, ma famille disait de moi, là, mettons, quand j'avais, là, j'ai 25 ans, là, quand j'avais peut-être, je sais pas, 15-16, là, clairement, c'était comme moi, j'allais devenir végé à un moment donné, là. Mm-hmm. Puis c'était beaucoup pour l'environnement. Puis, en fait, quelque chose que moi, j'essaie de mettre de l'avant. Puis, tu sais, c'est des choses que j'ai découvert à travers le temps, mais beaucoup dans les dernières années aussi, c'est je trouve que le discours est pas assez nuancé, tu sais. Ce qu'on se fait dire, les discours environnementalistes, c'est premièrement alarmiste, il manque de nuances, c'est simpliste. En fait, ce sont des enjeux multifactoriels. Si on parle de bœuf, autant que les pêches, le porc, le poulet, l'élevage animal, c'est multifactoriel. Fait que, bon, premièrement, pour revenir à ta question, là, est-ce que moi, je suis contre les végés? Pas du tout, là. J'adopte moi-même une alimentation très basée là, sur les fruits, légumes. Mais en fait, moi, ce que je mets de l'avant, surtout, c'est la qualité de nos aliments. Ça va être autant pour les légumes, les fruits, là, que la viande, les grains, les pains. Fait qu'en fait, cette alimentation-là, je pense que premièrement, l'alimentation végétarienne, c'est les gens le font de bonne foi. Puis, évidemment, c'est ce qu'on entend beaucoup, là, qu'en réduisant la viande, ben, l'empreinte de ton assiette est moindre. Ça peut être vrai, mais ça peut être faux aussi. Puis ça, je suis sûre que tu n'es même pas étonnée que je dise ça. Tu sais, de remplacer remplacer ton saumon fumé par un faux saumon à base de, je sais plus trop, de carottes dans lequel il y a de l'huile de palme, il y a de l'huile de canola, l'huile de palme qui déforeste des forêts en Amérique du Sud, tout à la base de coconut qui font la déforestation en Indonésie. Ben ça va être pire que de prendre du saumon ici, du saumon de l'Atlantique ou du Pacifique, du saumon de pêche sauvage. Au même titre que le classique exemple de Beyond Meat, entre ta boulette Beyond Meat puis ta boulette de bœuf nourri à l'herbe qui vient du Québec ou même qui peut venir de l'Ontario aussi, ben attends un peu, là, ta Beyond Meat, non, mais pas nécessairement meilleure pour l'environnement. Puis même au contraire, puis même les données sont de plus en plus convaincantes sur ces genres de produits-là qui sont transformés. Puis moi, ce que je n'aimais pas de l'avant, puis... Même en ce qui concerne les produits animaux, moi, en fait, là, ce que j'exclus vraiment là, de ma vie, ce que j'essaie le plus possible, c'est ce qui est transformé. Puis je pense qu'on ne peut pas... C'est difficile de défaire le lien entre environnement et santé. Moi, je pense que les deux vont ensemble. Mm-hmm. Et pour manger santé, ben évidemment que le produit a été produit d'une manière saine pour l'environnement aussi. On sépare beaucoup les animaux de l'équation, mais les animaux, ils font partie de l'équation. Tu sais, c'est de dire que les bœufs, ils polluent la planète. Non, les bœufs, c'est la nature. Les bœufs,
ouais, c'est ça.
Ils ont toujours été ici. Tu sais.
Parce que l'humain aussi pollue la planète.
Ben, c'est ça, tu sais, de penser que les animaux en ce moment qui nous nourrissent polluent la planète. Mais, non, c'est la nature. Tu sais.
Mais c'est vrai dans la mesure où justement on est dans les élevages de masse puis mm-hmm. on en a trop. Tout est exactement. Dans la nuance. Mais c'est ça que j'aimais de ton approche, en fait. Ben, c'est que j'ai l'impression que des fois, quand on est choqué par l'éthique animale ou par l'environnement, ben on voit ça comme étant, bon, option 1, rester carnivore, option 2, devenir végé. C'est ouais. comme si toi, t'amenais une autre alternative, puis je dis toi, en fait, c'est pas toi qui as inventé ça, là, mais la solution, finalement, de manger plus local puis de se tourner vers une industrie plus durable, je trouve que c'est comme une solution entre les deux qui peut être intéressante pour ceux qui ne se voient pas nécessairement devenir végétariens, mais qui ont une conscience quand même par rapport à ces problématiques-là. Puis, ouais. Je suis curieuse un peu, justement, si on se questionnait par rapport à notre industrie au Québec. Mettons, mm-hmm. est-ce que tu sais si la manière dont on produit la viande au Québec, c'est pire, moins pire qu'ailleurs, on se positionne où? Puis, comment ça marche, la production industrielle de viande? Puis là, je pose comme 10 questions en même temps. Ouais. Mais comment ça se différencie aussi là, de, mettons, l'agriculture durable de l'agriculture plus industrielle? Fait qu'on va commencer ouais. par comment on se positionne ouais. au Québec. Est-ce qu'on est pire, moins pire? Ça se passe comment?
Ouais, bien... Écoute, je pourrais parler de l'élevage en général au Québec, puis, évidemment, dire que mondialement, on a une bonne réputation. Notre élevage a une bonne réputation. Okay. Le Québec a beaucoup de réglementations là, pour l'industrie de l'élevage en ce qui concerne le porc, le poulet, le bœuf, l'agneau. C'est des réglementations qui vont nous protéger, les consommateurs. Il y a des réglementations en bien-être animal qui ont été adoptées dans les dernières années. Mais bien franchement, moi, je suis pas ici pour parler de l'élevage en général parce que c'est pas vraiment ce que j'encourage. Parce que l'élevage en général, il est intensif. Mm-hmm. Puis moi, c'est pas ce que je mets de l'avant. C'est un work in progress vraiment sur le site, là, de toujours avoir des produits de plus en plus nichés. Puis ce que j'encourage, moi, c'est puis c'est comme le slogan, là, c'est tout sauf l'élevage intensif, tu sais. Puis une assiette à la fois, c'est comme ça qu'on va y arriver. Puis tu sais, même quand on parlait il y a quelques minutes de l'alimentation végétarienne, une alimentation évidemment qui va nous aider à avoir une empreinte moindre dans notre assiette. Mais ce qui est important aussi, puis moi, j'ai plein d'amis végés, OK? Fait que ça, c'est vraiment drôle. Puis ils me supportent vraiment dans ce que je fais aussi. Puis je leur explique plein d'affaires. Puis ils sont toujours contents.
Mais c'est des valeurs cohérentes, là, en fait.
Tout à fait. Tu sais, ce qui est important en ce moment où on en est au Québec, puis là, je dis que je ne veux pas parler de l'industrie en général parce que ce n'est pas ce que j'appuie nécessairement, c'est qu'il faut qu'on parle à cette industrie-là. Puis en cancellant la viande, en encourageant les gens à avoir qu'une solution, qui est on arrête de manger de la viande ou comme dans Seaspiracy, on mange plus de poisson, ben on ne parle pas à l'industrie. Parce que les fermes, ce qui se passe là, une ferme qui vend, qui fait un bon profit, puis que son voisin, fait un meilleur profit, coudonc, ça va bien ses affaires, hey, mais il est bio, hein, mais c'est à petite échelle, hey, mais regarde comment ça marche, hey, il y a un site web en ligne, hey, il n'y a même pas besoin de développement des affaires parce que c'est les gens qui viennent vers lui tellement que tout le monde veut sa viande, tellement que tout le monde veut son porc. Puis là, je fais référence à des fermes que j'ai sur mon site web. Je vais les nommer parce que je les adore, les viandes bio de Charlevoix. C'est un bel exemple que beaucoup de gens connaissent. Il y en a plein d'autres, là, sincèrement. Il y a de plus en plus de fermes qui ont des sites web directement. Ce qui est important, c'est de parler à l'industrie, tu sais, de faire comme « Eh oh! » Tu sais, nous, on veut continuer à manger de la viande, mais on veut que ça change. Là, regardez qu'on commence à encourager. On veut plus de bio, on veut du plus petite échelle, on veut du bien-être animal, on veut que la chaîne soit moins longue. Tu sais, pour moi, vraiment, c'est ça qui est important. Puis, c'est ça, tu sais, comme je te dis, l'élevage en général au Québec, évidemment, est intensif. Puis si je prenais des gens de ton auditoire, puis qu'on s'en allait voir des fermes, des fermes, je parle les fermes classiques, là, les gros de ce monde là, au Québec que je nommerai pas, là, comme dans le porc et le poulet, là, un peu tout le monde sait de qui je parle. Pas tout le monde serait content là, de voir qu'est-ce qu'ils voient. Puis c'est pas pour rien que des fermes qui sont plus petites puis qui ont pris un autre chemin, qui respectent plus les animaux, qui ont des pratiques là, qui sont différentes. Tu sais, c'est niaiseux, mais comme c'est pas niaiseux pendant tout, là, c'est le respect animal. En fait, c'est comme je me faisais dire justement par un propriétaire d'une ferme qui ont des poulets. Tu sais, par exemple, dans le biologique ou dans le plus petite échelle, les certifications qu'ils ont, eux, leur demandent, tu sais, c'est un détail auquel les gens pensent pas, mais les attrapeurs de poulets, là, quand ils en attrapent dans les grosses fermes, là, ben les poulets ils sont blessés, les pattes sont cassées, fait qu'ils s'en vont se faire abattre, puis ils ont mal, tu sais. Puis là, certains pourront dire, mais coudonc, c'est juste qu'un poulet. Mais il y a bien des gens que non, nous on se dit pas ça, c'est juste un poulet, tu sais. C'est ça qu'on veut, le respect animal. Mais les petites fermes, ils ont des réglementations différentes. Ils vont pas faire mal aux poulets, ils vont pas couper les becs, ils vont pas couper les queues des cochons. Les cochons vont pas être dans des cages, ils vont être dehors. Tu sais, quand tu vas aux fermes bio à Charlevoix, là, mais c'est le fun de voir des cochons heureux, tu sais. c'est vrai.
On veut des cochons heureux.
Des cochons dans la boîte, des cochons en santé, tu sais, des cochons que les fermes qui prennent le plus soin vraiment des animaux comme ça, ben moi, c'est ce que j'essaie de mettre de l'avant, puis prendre soin, ça veut dire être à plus petite échelle aussi, tu sais. Fait que oui, l'élevage, en général, a une bonne réputation, mais encore plus les plus petits, tu sais.
Mais j'ai plein de questions dans ce que tu dis, tu sais, t'es passionnée, ça paraît.
Oui,
c'est un peu. Mais ben, dans le fond, tu sais, est-ce que tu penses que c'est viable aussi, tu sais, dans la mesure où on a une population quand même nombreuse? Tu sais, est-ce que tu penses que ça serait possible que tout le monde ait ce type d'élevage-là puis qu'on réponde aux besoins, tu sais, alimentaires de la population?
Bien, premièrement, j'ai le goût de dire, je l'espère. Puis, tu sais, moi, ce que j'essaie de mettre de l'avant, c'est en manger mieux, en manger moins. Puis vraiment comme de sensibiliser les gens au fait que, là, c'est en anglais, là, mais écoutez, c'est « it's not the cow, it's the how ». Tu sais, ça, c'est une phrase populaire qu'on veut dire que c'est pas la faute de la vache ou bien de l'animal, c'est la faute du comment. Ça, vraiment, au Québec, là, il y a de plus en plus de producteurs, de petites fermes qui mettent exactement cela de l'avant. Je pense, j'ai lu récemment là, dans un article, il me semble que c'était La Presse, je m'en souviens plus trop, que pour la première fois depuis 30 ans, il y a plus de nouvelles fermes que, en fait, dans les 30 dernières années, les nouvelles fermes étaient tout le temps en diminution. T'sais. Fait qu'on le voit, là, les jeunes s'y intéressent de plus en plus. Des enfants qui reprennent les fermes des parents. On change les choses. On est dans une nouvelle époque. Puis regarde, je suis le meilleur exemple. Mon père avait un distributeur alimentaire. Puis je le vois un peu 2.0. Tu sais, comme c'est bien beau, qu'est-ce que tu as fait. Mais maintenant, on est une nouvelle génération. On veut amener un changement. Puis c'est que c'est Ces fermes-là au Québec, il y en a vraiment de plus en plus, puis il faut qu'on les encourage, il faut qu'on on change cette partie de notre alimentation-là, il faut qu'on mange plus local, il faut qu'on s'intéresse à d'où viennent nos produits, comment ils ont été produits, c'est tellement important. C'est important autant pour les légumes que pour nos produits transformés que pour les viandes et les poissons, tu sais.
Puis concrètement, tu disais, tu parlais des fermes de Charlevoix, puis tu disais, tu sais, quand tu réalises à côté qu'il y en a une qui fait bio, qui vend sur son site web, tu sais, puis qui est plus profitable, c'est sûr que je pense que les fermes de Charlevoix, au fil du temps, ils ont monté leur réputation, on les connaît bien, c'est une business qui roule, qui est profitable, mais on ne se cachera pas qu'il y a des enjeux aussi pour celles qui démarrent, tu sais, les coûts des certifications bio, tu sais, ça peut être effrayant, tu sais, fait que l'enjeu de profitabilité, ça reste une business, c'est une business aussi, fait qu'il faut quand même, tu sais, plus qu'on les encourage, plus que ça va être facile pour eux de rendre le processus viable et profitable. Par contre, ça m'amène vers une autre question qui est, on capote tous à cause du prix du panier qui augmente. Mm-hmm. Fait que, est-ce que c'est un mythe de penser que c'est réellement plus cher? Puis là, tu parlais du fait de, ben, tu sais, manger moins, manger mieux. Fait que peut-être que justement, si on variait davantage notre alimentation, qu'on faisait une place aux protéines végétales qui sont non transformées et donc très peu chères, puis qu'en contrepartie, on consommait de la viande de meilleure qualité. Je sais pas, toi, comment tu vois ça?
Ben, vraiment, je pense que tu as dit un mot qui est tellement important, puis c'est de varier, tu sais. Mm-hmm. Varier pour plusieurs raisons. Premièrement, tu es nutritionniste, tu pourras vraiment, je suis certaine, mais pour notre santé, de varier ce qu'on mange, c'est important. En ce qui concerne, par exemple, les viandes, tu sais, les poitrines, la maudite bavette, le saumon, les gens mangent toujours la même affaire, puis ouais. C'est problématique. Puis, on dirait que j'arrête pas de parler des articles que je lis, là, mais c'est parce que j'aime ça lire là-dessus. Mais dernièrement, justement, j'ai lu un article, c'était des boucheries, tu sais, qui disaient, ben, tu sais, faut que les gens réalisent qu'en demandant toujours les mêmes pièces, ben, c'est plate à dire, mais on en tue plus des animaux à cause de ça.
Oui,
il y en a plus qui se rendent à l'abattoir parce que vous demandez juste de la bavette. Les poitrines de poulet, là, ben, il manque de main-d'œuvre. Fait que le poulet entier, c'est une bonne idée aussi. Mm-hmm. On aide l'industrie en demandant des coupes différentes dans le porc. C'est toujours les mêmes coupes qui sont demandées. Fait que de varier qu'est-ce qu'on mange, mais de varier les coupes aussi. Il y a tellement de coupes de viande à découvrir. Il y a des coupes moins chères aussi à découvrir qui sont superbes pour la cuisson lente, pour le barbecue. Des recettes à découvrir aussi de couper la viande en deux. Je suis sûre que tu as des recettes sur ton site qui proposent cette idée-là, ouais. De mettre moitié lentille, moitié bœuf.
Ouais.
Mm-hmm. Le bœuf aussi, c'est devenu... on parlera de ça par après, là, le bœuf nourri à l'herbe, là, si tu le souhaites, mais c'est comme devenu tellement le démon, c'est le bœuf, bon, numéro un, le cancer, ensuite l'environnement, t'sais, bon, il faut le bannir, mais le bœuf, on oublie que c'est une excellente source de protéines, c'est une viande, c'est très complet comme aliment, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup pour avoir beaucoup de
bienfaits. Il y en a plusieurs qui surveillent leur faire.
Exactement. Tu sais, la viande de gibier, c'est à découvrir. C'est des belles productions. C'est des beaux élevages. La viande de gibier, c'est des animaux qui sont à l'extérieur constamment. Tu sais, il y a tellement de choses à découvrir. Puis justement, je pense que, tu sais, tu disais, bon, le panier de plus en plus cher, ça, on se le cachera pas. Puis je veux vraiment pas dire le contraire, là. Moi, je le vois, là. Vraiment, mes produits... Les fermes augmentent les prix constamment. Est-ce que c'est épeurant? Oui. Mais est-ce qu'on peut user de stratégie? Oui, je pense que oui. Regarde, premièrement, les endroits qu'on achète, on connaît les gros entrepôts de ce monde, mais de plus en plus sur le web, là, il y en a des affaires. Là, comme j'essaie d'expliquer des fois à mes clients, parce que j'ai quand même des commentaires sur hein, c'est pas cher, c'est le fun de voir que. Il y a d'autres endroits où on peut aller chercher notre viande, c'est avantageux. Ben, je suis en ligne, j'ai pas beaucoup d'employés, j'ai pas 40 000 commis à payer à l'épicerie, j'ai pas d'entrepôt à payer, Oui, on est des concepts qui peuvent être avantageux, je suis pas seule, parce que moi, en fait, je dis ça parce que je vis à Québec puis à Montréal, là, mais il y en a partout ailleurs au Québec, des concepts comme moi, tu sais que moi, c'est tous les produits sont surgelés, en fait, chez Réserve Locale, fait que quand il y a une promo, ben écris-moi dans l'infolettre, là, je le dis, hey, profitez-en, là, il y a une promo, là, achetez-en là, de votre
ton congèle, là, c'est le moment.
Vraiment, ouais. Puis il y a de plus en plus de fermes aussi, c'est des fermes responsables qui ont des vraiment belles productions d'élevage, vraiment en harmonie avec l'environnement, qui vont ils vont proposer la vente en ligne. Ils offrent leur bœuf ou le porc. C'est souvent porc, bœuf et agneau, là, je te dirais, en ligne. S'ils font des promotions à la fin de la saison, en début de saison, souvent ce qu'ils vont proposer, c'est un demi-bœuf, un demi-porc, mm-hmm. ou même un bœuf ou un porc. C'est assez gros, là. Mais tu sais, profiter des opportunités comme ça d'acheter en gros, de surgeler, d'acheter dans le surgelé aussi. Pour clore ta question, là, ce que je dirais, c'est moi, j'ai beaucoup cette philosophie-là que c'est pas vrai que de manger santé, c'est plus cher. Au contraire, tu sais, c'est souvent dans le panier, je te dirais, du Québécois moyen, ce qui va faire augmenter la facture d'épicerie, c'est tout ce qui est transformé. Tu sais, c'est quand on prend vraiment ces produits-là puis qu'on se questionne à savoir si j'avais besoin de ça, bien souvent, la réponse, c'est non. Tu sais, est-ce que j'avais besoin d'une vinaigrette à base, by the way, tu sais, d'huile de canola, premièrement pas santé, puis mauvaise pour l'environnement, ou d'huile de palme? Non, tu avais juste besoin d'une huile d'olive, d'un citron, un vinaigre de vin rouge tout québécois pour les quelques vinaigrettes que tu auras à faire, tu sais, que j'ai besoin d'acheter la pizza surgelée, je sais plus trop où. Non, c'est tellement facile à faire, tu sais, fait que de cuisiner soi-même à la maison, puis de consommer des aliments moins transformés, puis tu sais, ce qui est transformé, faites-le vous-même. C'est tellement facile de faire de la mayo, genre, tu sais, de la mayo, ça prend 5 minutes à faire, tu sais. Fait que je dirais que c'est des bonnes solutions.
J'aime beaucoup ta philosophie, mais je te confirme que l'appliquer, ouais, c'est mon game.
Je dis ça, là, puis c'est vraiment...
Travailler dans le détail avec des clients, là, il y en a plusieurs qui ne sont pas rendus à faire leur maillot, même si on sait que c'est simple. Là, fait
non,
que,
c'est bien meilleur.
oui, c'est clair. Mais non, c'est vrai. En fait, puis je pense aussi que tout passe par l'éducation, dans la mesure que quand on connaît bien les aliments, puis quand on optimise aussi nos compétences culinaires, parce que, tu sais, cuisiner pour quelqu'un qui sait cuisiner, c'est très simple, mais il y en a plusieurs qui n'ont simplement pas ces compétences-là, fait que je pense que c'est effectivement, tu sais, on pense pas à ça quand on dit que le panier d'épicerie coûte cher, mais si on améliore nos compétences pour être en mesure de transformer nous-mêmes les aliments, de cuisiner, bien c'est sûr qu'à la longue, ça va avoir un impact. C'est sûr que nous, des fois, on aime que ça aille vite, quick, on veut des résultats tout de suite, mais sur le long terme, c'est clair que c'est payant. Ouais. Puis là, il y a une autre chose que je m'étais nommée tantôt qu'on a adressée, puis que je me suis dit, il faut absolument qu'on revienne sur le sujet. Puis je sais que, comme tu dis, c'est pas nécessairement de ça que tu veux parler, mais tu dis que les produits que tu vends, c'est tout sauf de l'élevage intensif, mais est-ce qu'on pourrait définir, puis là, quand je te dis définir, là, je m'attends pas à la définition du petit Larousse, mais tu sais, c'est quoi l'élevage intensif, justement? Tu sais, pour toi qui baigne là-dedans dans le day-to-day, c'est vraiment évident, puis je suis sûre qu'on a toutes une image de ce que ça pourrait être, mais clairement, tu sais, c'est quoi, en fait, l'élevage intensif?
La définition exacte, là...
Ah, c'est ça, je m'attends pas à ça pantoute, là.
C'est même pas qu'elle existe, mais c'est sûr que moi, j'ai comme des critères. Puis est-ce que là, tout ce qu'il y a sur le site web est 100% parfait, puis c'est les tops des tops? Non, j'ai toujours des nouveaux produits qui arrivent de plus en plus nichés. Aussi, j'essaie de répondre à la demande des gens. Je sais que je suis assez... dans une niche qui est encore peu connue, fait que, l'offre que j'ai constamment en transformation, mais moi, je sais que ce que je recherche, c'est des plus petites productions, fait que des plus petits élevages. Pour moi, c'est important que les animaux aient accès à la lumière ou soient dehors. Puis là, c'est souvent quand on parle de production là, responsable, c'est comme il faut absolument que les animaux soient dehors. Mais là, il faut comme prendre en compte aussi que tous les animaux ne veulent pas toujours être dehors. Là, ils aiment ça être à l'intérieur aussi. Là, comme un poulet, c'est pas vrai que ça va comme toujours manger des vers de terre. Dans le sens que l'hiver, ils sont à l'intérieur. Puis le printemps aussi, ils aiment
mieux.
C'est correct. Mais par exemple, j'ai deux fermes en fait là, pour le poulet. Là, par exemple, les poulets du Voltigeur à Drummondville, puis j'ai le poulet des viandes bio de Charlevoix. C'est des poulets qui sont à l'intérieur, qui ont accès à la lumière, qui ont plus d'espace pour se déplacer. C'est des poulets qui sont tu sais, un poulet, en fait, là, qui va devenir comme trop gros puis qui est rendu obèse par sa mauvaise alimentation. Les poulets, mettons, en élevage conventionnel, ils se font nourrir de sous-protéines animales, en fait. Puis moi, le poulet est que nourri au grain végétal à 100%. Mais tu sais, un poulet obèse, mais ça va finir comme par tomber. T'sais. Fait que ça, c'est pas un élevage éthique.
Fait que dans le fond, c'est que le bien-être animal, il est vraiment mis de l'avant. C'est une priorité.
Complètement. C'est pareil pour le porc. T'sais, un porc, là, ben, ça aime être dans la boue, ça aime être dehors. Puis ça, écoute, il faudrait que je fasse venir le propriétaire des viandes bio de Charlevoix. J'en avais parlé longuement avec lui, là, mais t'sais, vraiment, c'est la manière qu'on nourrit l'animal, premièrement, là, ça, c'est important. Ça, c'est assez important là, sur mon site aussi. Là, c'est vraiment ce que je mets de l'avant, ce qui est donné à l'animal comme grain. Là, aux viandes bio, c'est comme le top du top. Là, ils produisent les grains eux-mêmes. C'est fait que vraiment, ça ne peut pas être mieux. Des grains biologiques en plus. Là, fait que, le porc, il mange genre mieux que ben du monde. C'est pour ça que c'est un super produit. C'est vraiment la manière qui est traité l'animal. Est-ce qu'on le rend obèse? L'animal, il fait juste
On
vivre
entend
sa vie.
bien, ouais.
Ça a une différence dans le goût, ça a une différence nutritive aussi. Pareil pour le bœuf, tu sais, le bœuf, je te parlais tantôt de bœuf nourri à l'herbe. Tu sais, au début du podcast, je disais, mais un bœuf, c'est pas ça le problème, ça, c'est la nature. C'est comme dire, un poisson dans l'eau, c'est pas bon pour l'environnement. Non, tu sais, c'est eux, ils étaient
Ouais.
là avant nous, là, tu sais. Fait que,
C'est leur
faut comme
place.
revenir en arrière pour comprendre que les. Tu sais, par exemple, les bœufs, là. Bon, ce que tout le monde se dit côté durabilité, c'est « Ah, mais les bœufs, ils ont des gaz, c'est du méthane, c'est pas bon pour l'environnement, fait qu'il faut arrêter d'en manger. » Oui, les bœufs, effectivement, dégagent du méthane, mais un bœuf, c'est fait pour être sur de l'herbe, dans un pâturage, puis ça mange l'herbe parce que c'est un ruminant. Puis en ce moment, ce qu'on fait avec les bœufs, c'est qu'on leur donne du grain qui vient de je sais plus trop dans le monde. Puis en fait, les bœufs ont des problèmes de digestion, ils ont mal, on les rend pas en santé du tout, alors que ça devrait, comme un bison, par exemple, être dans une prairie, dans un pâturage, en train de manger l'herbe. Puis pourquoi je disais tantôt, ben, le bœuf fait partie de la nature, en mangeant l'herbe sur le pâturage, dans les prés, les animaux qui sont des ruminants. En fait, ils aident la planète parce que un des plus grands capteurs de CO2 qu'on a sur la planète, c'est nos sols, t'sais. Puis ça, c'est une grande problématique qu'on ne parle pas assez en ce moment. Puis côté alimentation, on doit en parler, là. C'est pas juste, on parle pas juste d'agronomie ici, là, t'sais, on doit parler de ça quand on parle d'alimentation durable. En mangeant le gazon sur le sol, l'herbe courte, ben le ruminant, là, il mange juste la première partie vraiment là, de la plante, là, si tu veux, du gazon. Ça fait en sorte que le gazon va repousser vraiment de manière maximale assez vite. Puis le sol, pendant ce temps-là, quand le gazon pousse, quand une plante pousse, capture du carbone. T'sais. Fait que c'est des grands capteurs de carbone, les sols. Puis les animaux, une bête sur une prairie, ben ça va ensemble.
Une empreinte écologique est comme neutre à cause de ça.
Exactement. T'sais, c'est pour ça qu'on dit que ces élevages-là en pâturage, nourris à l'herbe, ben, c'est carboneur. C'est ce que la planète veut. Un animal sur le sol à brouter, ça a toujours été comme ça. Puis ces propriétaires-là, des fermes qui sont plus petites, qui ont tout simplement des meilleures pratiques, c'est ce qu'ils mettent de l'avant aussi. Ce que j'entendais dire, c'est ben, moi, je fais comme dans le temps à mon arrière-grand-mère. C'est vers là qu'il faut revenir. C'est vers des pratiques d'élevage plus ancestrales, si tu veux, plus anciennes. Parce qu'en fait, eux, ils l'avaient l'affaire dans le temps. Là, et maintenant, ce qu'on veut, ben, c'est de la production, de la productivité, la performance, le rendement. Puis, ben, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'humain le problème, c'est pas les animaux, c'est
Ah
nous.
ouais. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu dis. Puis d'ailleurs, je réfléchissais un peu en t'écoutant. Puis je me disais, tu sais, mon regard de nutritionniste, des fois, on se demande aussi. Puis on se demande, mettons, bon, côté nutritionnel, tu sais, que la bête soit nourrie à l'herbe, qu'est-ce que ça amène? Mais je m'imagine tellement aussi, tu sais, tu disais, exemple, les problèmes de digestion qui peuvent être générés chez la bête à cause qu'ils ne sont pas nourris d'une manière adéquate, ou tout le stress qui est vécu, clairement, ça, c'est de l'inflammation que la bête va vivre. Puis, tu sais, c'est des molécules aussi qui vont se transférer dans les muscles, puis dans tous les tissus mous, là, donc finalement, dans ce qu'on mange, là. Fait que c'est clair qu'il y a des molécules qui sont peut-être moins appropriées à la santé humaine aussi.
C'est des choses à prendre en compte. C'est des choses d'ailleurs, c'est des facteurs que des études ont pris en compte. Là, puis là, je ne pourrais pas nommer les études, là, mais c'est des choses qui ont été étudiées. Là, puis même l'animal nourri à l'herbe aussi. J'ai lu des études que le rapport en fait des oméga était meilleur. Il y a plein de choses. Ah, j'encourage les gens à aller lire là-dessus là, parce que c'est un sujet intéressant. Puis même c'est pas l'épicerie, là, mais la semaine verte, là, il y a un reportage super intéressant là-dessus, là, avec des belles données. Là, c'est important. Okay. Ça, ouais.
Puis est-ce que tu connais les critères qui font en sorte qu'une viande peut être accréditée biologique? Donc, évidemment, il y a la certification, donc la ferme doit avoir la certification, mais c'est quoi en fait? C'est la manière, j'imagine, dont elle est nourrie, les conditions de vie de l'animal? Est-ce
que tu peux nous en dire plus? Il y a des conditions de vie, là, vite comme ça, on dirait que je pourrais pas toutes les nommer, mais tu sais, je sais qu'il y a quelque chose avec l'accès à l'eau, en fait, là, les animaux ont plus d'espace pour se déplacer. C'est surtout aussi de comment on nourrit l'animal, tu sais, de manière biologique, là, par des grains biologiques. Mais c'est le biologique, là, oui, a un rapport avec les conditions de vie de l'animal. Fait que souvent, là, tu sais, c'est... En fait, là, c'est super multifactoriel, ça, parce que les gens, bon, souvent, on va voir le bio. Ah, le bio, c'est plus cher, là, ça n'a rien, oui, tu sais, c'est de la viande, ou je sais pas, tu sais, les gens s'y intéressent moins, mais ça va tellement plus loin que ça. Parce que la différence de coût entre le conventionnel puis le bio est à quelque part, tu sais. C'est quelqu'un qui a payé à quelque part, puis souvent, ce quelqu'un-là, ben c'est l'environnement. Tu sais, fait de payer moins cher pour des viandes, là, puis c'est la même chose dans le linge, hein, tu sais, c'est la même chose partout, le coût est à quelque part d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui a payé. Par exemple, les animaux qui se nourrissent de grains, là. Bon, là, moi, personnellement, mon bœuf se nourrit pas de grains, là, se nourrit à l'herbe, mais par exemple, on va donner ça au porc. Ben, l'agriculture derrière ce que l'animal mange aussi, là, c'est important. Là. Puis ça, c'est un sujet aussi que moi, j'essaie vraiment de mettre ça de l'avant sur mes réseaux sociaux. L'agriculture biologique, j'essaie de parler beaucoup d'agriculture régénératrice. Pourquoi c'est important de consommer bio? En fait, là, sérieux, je ne sais même plus les statistiques, là, mais c'est pas beau à voir. Là. C'est comme plus que 70% des sols de la planète sont en perte de biodiversité. La biodiversité des sols, là, je viens d'en parler, c'est super important pour capter le carbone dans l'environnement. C'est aussi super important côté durabilité. Durabilité, ça veut dire, est-ce qu'on va pouvoir reprendre ces sols-là dans 15 ans? Il y a des reportages super intéressants là-dessus, puis un petit peu, par ailleurs, assez traumatisant.
Alarmiste!
Oui, mais c'est pas beau ce qui se passe
non, je
en
sais.
Ce moment. Là, on est vraiment en train de perdre la qualité des sols, les nutriments dans nos fruits, dans nos légumes. Fait que, tu sais, quand on se dit, bon, l'animal, il a été nourri bio, mais ça va plus loin que ça. Là, c'est une agriculture biologique, c'est des sols en santé. Tu sais, sur une ferme, ben justement, là, quand je suis allée au camp bio de Charlevoix l'été passé, là, je parle beaucoup d'eux parce que j'avais passé beaucoup de temps avec eux. On a filmé une belle vidéo avec eux. Tu sais, Damien, le propriétaire, tu sais, prenait les sols, en fait, là, dans les champs où ils cultivent le grain qu'ils vont donner à leurs animaux. Ils prenaient le sol, puis ils nous montraient ça, de regarder là, comment c'est beau, là, c'est plein de vie. Ça, c'est un sol qui aide notre planète, qui capte le carbone, ça va être des bons grains. Par ailleurs, c'était bon, du blé, de l'orge, de l'avoine, tout mêlé ensemble, pour créer une belle diversité. C'est pas des... Je sais pas c'est quoi en français, mais de la monoculture. Je pense que c'est
ça. On sent la passion que tu nous transmets là, de cette personne-là. Ça donne tellement le goût de les encourager. Oui. C'est fou.
Si, rencontrer d'amis, sincèrement.
Andrea, est-ce que tu fais de l'éco-anxiété? Là, tu me fais peur, là. C'est le dernier épisode de la saison, là. Faut être positif un peu.
Non, mais en tout cas, c'est plate à dire, je sais, mais ça...
Ah non, je sais. Mais, je ris bien, là, mais...
Mais j'en fais pas pour le sujet dont je parle, parce qu'en fait, là, je pense qu'on est vraiment...
Dans un virage, là, ouais, il y a de plus en plus de gens qui sont conscientisés.
Ouais, tu sais, dans les épiceries santé, là, c'est pas comme si, là, ils sont plus avancés, le grass-fed, là, c'est super mis de l'avant, je parle vraiment pas en général des États-Unis, là, c'est vraiment pas un pays exemple à suivre, là, mais tu sais, les gens sont beaucoup plus conscientisés sur, comme, hey, aller chercher la viande à la ferme locale à côté de chez moi, c'est des sujets qu'on parle beaucoup plus aux États-Unis. Je pense que ça s'en vient ici. On sent, ça commence à prendre de l'importance. Fait que côté alimentaire, moi, je suis très, très, très optimiste. Là, j'ai l'impression que ça s'en vient. Les gens prennent de plus en plus conscience de ce qui se passe, puis que c'est important de s'approvisionner, premièrement, localement, mais aussi de manière plus durable. Mais on dirait ce que j'ai goût de dire, de ce que je suis moins optimiste. C'est la consommation en général, tu sais, parce que je trouve qu'il y a des discours là, qui, en fait, là, qui sont simplistes, pas assez nuancés, tu sais, par exemple, des environnementalistes, bon, tu sais, qui vont parler de, faut arrêter, alors, par exemple, faut arrêter de manger de la viande, prennent pas en considération quelle viande qu'on peut manger pour aider l'environnement, quelle ferme qu'on peut encourager. Puis par exemple, ils vont parler de l'alimentation, mais ils vont pas parler de la mode, comment que les gens consomment de linge. Tu sais, ça, c'est un secteur là.
Totalement, qui est très
C'est
polluant.
fou, là. C'est fou, là, les données.
De toute façon, si on était tous végés, ça fonctionnerait pas non plus. T'sais, l'écosystème est fait pour que l'humain mange la viande en quelque sorte aussi, là. Il faut juste revoir les pratiques, je pense. Évidemment, c'est pas quelque chose qui va se faire dès demain, mais je pense
Non.
que c'est un processus en continu. Puis d'en parler comme on fait présentement, ben c'est un pas de l'avant. Puis ben on parle beaucoup de la viande depuis tantôt, mais j'aurais envie qu'on jase de poisson. Parce que c'est un autre sujet pour lequel je pense qu'il y a beaucoup d'affaires que, comme je disais tantôt, j'ai commencé à aborder avec Valentine dans le premier épisode de la saison. Mais selon toi, en fait, pourquoi il serait préférable d'acheter nos poissons locaux?
Ben, j'ai le goût de répondre parce qu'on n'a pas besoin de les acheter d'ailleurs.
C'est
C'est,
vrai.
ça a l'air simple comme réponse, là, mais regarde, par exemple, là, chez. Oh, ça me tente pas de nommer personne, là, mais regarde le gros entrepôt où tout le monde va, OK, là, qui t'achètes ton.
Le gros entrepôt où tout
Ça n'a pas commencé à
le monde
nommer,
va. Je
on
le connais pas. Où ça?
Oui, c'est pour ça, là.
Est-ce que ça prend une
Mais.
carte de membre, là?
Oui,
Ils
genre,
font de la
OK.
bonne crème glacée?
Bon, puis que c'est américain, là, tu sais. Ouais, la crème glacée est bonne, par contre. Mais tu sais, par exemple, là, ben, souvent, le saumon qu'ils ont dans le congélateur, ben, c'est du saumon du Chili. Pas de problème, le saumon du Chili, c'est de l'aquaculture. Écoute, comme on va retrouver dans l'Atlantique, qui ont de plus en plus là, de réglementations, de certifications, c'est pas le meilleur, tu sais, l'aquaculture, mais bref, on en reparlera, mais tu sais, c'est une solution pour une autre problématique. Mais tu sais, les gens qui achètent ça du Chili, ben, j'ai le goût de leur dire, ben, il y en a ici. Tu sais, ça vient de, je sais plus trop, de plein de places. Et de la Madeleine, en Gaspésie. Tu sais, ça peut être québécois, ça peut être canadien. Par exemple, les crevettes qui viennent souvent d'Asie, ben, c'est moins beau là, ce qui se passe en Asie. Tu sais, puis on en a ici. Ou des beaux gros poissons qui viennent de la Méditerranée. Ben, c'est en Méditerranée, moi, j'aime pas ça commencer à lancer des statistiques, sincèrement, parce que je trouve que c'est un secteur tellement complexe, là, les pêches, tellement, tellement complexe, puis c'est très difficile à comprendre pour le consommateur. Mais, tu sais, il y a de plus en plus, là, en tout cas, d'articles, là, qui parlent de la Méditerranée, puis leur stock, ça va plutôt
Très
mal
bien, là.
là-bas. Puis on en a tellement ici, là, tu sais, au Québec, de plus en plus aussi, on va commencer à entendre parler de ce qu'on a dans le Saint-Laurent. Ça va être de plus en plus mis de l'avant, puis ça,
Mais,
tant mieux.
tu sais, on s'entend que la problématique, là, c'est que pourquoi le saumon qu'on achète en provenance du Chili, il revient moins cher que le. Ben, premièrement, c'est vrai, c'est un mythe, ou tu sais, parce que le Québécois, souvent, il est bien prêt à faire son bout de chemin, mais ça reste que crème de l'argent, ben, on a besoin, là, tu sais, puis on le disait
Merci.
tantôt, ça coûte cher, tu sais. C'est là le problème. Il faudrait qu'il y ait des subventions, je sais pas trop, tu sais. C'est pas normal, là, qu'on
Non.
achète du saumon qui vient du Chili puis qu'il nous revienne moins cher que nos saumons d'ici, là.
Non. Oui, exactement. Puis, encore là, tu sais, on dirait que je ne veux pas mettre la faute sur le consommateur. Il y en a qui ont besoin d'acheter vraiment ce qu'il y a de moins cher. Puis du saumon,
Ah oui,
c'est
c'est ça.
un bon produit à manger pour notre santé. Mais tu sais, le prix il est toujours à quelque part. T'sais. Là, par
Non, c'est ça.
exemple, du
Mais
Chili,
c'est ça, on peut le comprendre, mais pour certaines personnes, tu sais, il y a... C'est ça.
On n'est tellement pas ici pour viser ces gens-là.
Non,
Surtout
exactement.
en ce moment, c'est tellement difficile. Puis il y a tellement de gens qui essaient de se serrer la ceinture. C'est en fait tout le monde là, en alimentation, c'est juste, c'est fou comment que les prends le monde. Mais tu sais, il faut, c'est ça, comme on parlait tantôt, c'est user de stratégie. Puis, je disais ça aussi là, à l'entrepôt, dont je ne veux pas dire le nom, là, mais ils en ont souvent, ils ont souvent des bons produits aussi là, de l'Atlantique, du Pacifique. C'est pas, faut arrêter de penser que cette place-là, c'est comme les pires produits qu'ils ont, pas du tout.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est juste que, en fait, moi, j'écoute dire aux gens, aller à la poissonnerie ici, demander aux poissonniers, tu sais, « Hey, ça vient d'où, ça? C'est quoi l'arrivage? Tu sais, hey, je mange quoi ce soir? Qu'est-ce que tu me conseilles aussi? » On parle de saumon, il y a tellement d'autres produits à découvrir. Mm-hmm. Puis je pense que les gens, puis ça, je dis ça par expérience, par mon père, là, qui a une poissonnerie aussi, les gens ont peur de cuisiner des poissons blancs. Vraiment, là. Mm-hmm. C'est pas assez cuisiné. C'est tellement facile à cuisiner souvent. C'est sûr que ça peut être comme plus facile à manquer, je sais pas, là, que du saumon. Mais il y a beaucoup de choses à découvrir.
Ça goûte pas grand-chose, donc il faut que tu le cuisines. Mais il faut que tu apprennes à le cuisiner. Puis culturellement, on n'a pas ce bagage-là. Donc, il faut faire preuve de curiosité. Puis des fois, dans le day-to-day, les gens sont tellement occupés qu'ils prennent pas le temps de s'arrêter pour aller au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire, essayer des nouvelles recettes. C'est sûr, c'est plate aussi si tu essayes une nouvelle recette que finalement, bon, personne ne l'apprécie. Puis là, encore, on vient au coût. Mais tu sais, tu as dépensé de l'argent pour ces aliments-là. Mais tu sais, par rapport au poisson blanc, justement, là, moi, j'ai toujours un petit dédain des poissons blancs qu'on voit dans les étalages parce que justement, je trouve que, tu sais, le monde en mange tellement pas que je me dis à quel point il y a du roulement là-dedans. C'est-tu vraiment frais? C'est-tu vraiment pas frais? J'ai eu des mauvaises expériences aussi. Fait que moi, là, mon highlight de poissons blancs, là, c'est vraiment de les acheter complets. Là. Puis l'autre jour, là, on a acheté, moi puis mon chum, un tilapia. Je l'ai mis justement en story. Puis je demandais aux gens, un tilapia complet, je demandais aux gens... tu sais, c'est quoi cette espèce-là, savez-vous c'est quoi le poisson qu'on mange, là? Puis pratiquement personne ne savait de quoi ça avait réellement l'air, tu sais. Mais même au goût, là, Andrea, là, c'était genre, j'étais comme, OK, on dirait que j'ai jamais mangé de tilapia, là. Il était tellement bon, là, que ça m'amène à me demander, mais qu'est-ce qu'ils mettent, genre, dans les étalages à l'épicerie, mettons, là, parce que, encore là... T'sais, tu dis aller à la poissonnerie, mais c'est parce qu'il faut rendre ça plus accessible. Puis c'est d'ailleurs ta mission qui est vraiment... Ça fait tout son sens parce que, mettons, moi, ici, là, la poissonnerie, ben, t'sais, j'en ai pas dans ma ville proche, mettons. Fait qu'elle est quand même loin de chez nous. T'sais, c'est pas toutes les villes là, qui ont des poissonneries. Puis, t'sais, j'en parle souvent, là, mais au IGA où je vais, là, ils ont sorti un genre de congélateur, justement. C'est les produits de la Gaspésie. Là, c'est vraiment juste les produits du Québec. Moi, maintenant, j'achète tous mes poissons, je les prends dans ce congélateur-là parce que je suis safe, là, j'ai au moins ces ressources-là. Mais c'est ça, tu sais, il faut qu'il y ait du monde comme toi aussi qui rende ça accessible à plus grande échelle parce que sinon, on sait, OK, c'est bien beau dire achète local, OK, mais fine, mais où, tu sais?
Exactement. Non, c'est sûr que... Puis d'autant plus là, que le comme je te disais, je trouve que ce secteur-là, des pêches, là, je compte même plus là, le nombre d'heures que je passe à essayer de m'éduquer, de comprendre. Puis, hey, mais là, cette information-là, non, j'ai pas vu ça ailleurs. Hey, je me suis fait dire le contraire. Mm-hmm. C'est vraiment en constant changement parce que les pêches, bon, ils ont des ratios à respecter, des quotas. Là, bon, et la saison d'après, hein, ben, telle espèce est revenue, on recommence. Là, regarde, cette année, là, ils ont réduit les quotas-là, je pense qu'ils disent dans le macro, tu sais, le macro, il n'y a pas longtemps, c'était bien correct, là, puis ça change comme tout le temps,
c'est
super difficile de rester à jour là-dedans, puis tu sais, je pense qu'une des bonnes recommandations, tu sais, qu'on peut donner aux gens, c'est sûr que c'est de regarder les certifications, oui, tu sais, moi, sur mon site, ben je me fie à OceanWise puis la MSC. D'ailleurs, OceanWise ont une super belle liste de produits durables sur leur site web, c'est comme sérieux, c'est genre des milliers là, de produits. Puis en fait, ils donnent comme un code vert, jaune, rouge. Oui, correct, non. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que les gens peuvent aller voir. Il y a plein d'applications aussi, tu sais, qu'on peut avoir sur notre cellulaire avant d'aller acheter le poisson. Mais tu sais, c'est tellement complexe. J'ai comme l'impression que là, je vais avoir l'air plate un peu, mais c'est ce que je me fais dire aussi par les gens, c'est qui distribuent ces produits-là. Tout est rendu certifié un peu, tu sais. C'est comme, il y a tellement de trucs certifiés. Fait que moi, je pense que, tu sais, ce qui est important, puis Là, on dirait qu'on fait comme une liste de devoirs à ton auditoire, là, mais c'est un peu ça, c'est de s'éduquer de qu'est-ce qui est problématique dans la pêche, qu'est-ce que je vais demander aux poissonniers. Ben, tu sais, premièrement, c'est de se questionner à savoir si premièrement la pêche, ça a été pêché où, est-ce que le produit vient de Chine ou si ça a été pêché comment, puis pourquoi il faut savoir comment ça a été pêché. T'sais. C'est vraiment de s'éduquer sur les différentes manières de consommer les poissons de manière plus durable. Mais c'est un sujet là, que, on dirait, j'aime pas se finir là-dessus, mais c'est très complexe à comprendre.
Ah oui, c'est très complexe. Puis c'est un peu ce qui ressortait de la discussion avec Valentine aussi. Puis c'est, en fait, tu sais, moi aussi, là, j'ai essayé, parce que mes clients m'en posent des questions, puis je suis hyper curieuse de comprendre, mais effectivement, c'est tellement difficile de s'y retrouver. Puis tu sais, globalement, la problématique qu'on a, puis c'est effectivement super beau comme discours, tu sais, de s'éduquer, mais comme tu dis, imagine le temps que toi, t'as passé à mettre à t'éduquer, tu sais, puis je veux dire, ça, c'est sur un sujet X, tu sais, moi, je te dirais la même chose avec l'alimentation, là, dans le sens que, tu sais, y a pas, je dis souvent, mais il n'y a pas un jour où j'apprends pas, il y a tellement de choses à apprendre, ça évolue tellement vite que, tu sais, ça reste que c'est pas évident, mais tu sais, globalement, en fait, de se tourner vers des produits qui sont plus locaux, c'est sûr que c'est plus safe.
Oui.
Tu sais, je pense que ça serait la première chose à observer parce que, comme tu dis, les certifications, ben, il y en a beaucoup, puis à un moment donné, on sait comme plus trop de varier. Ça, c'est super important.
Tellement.
Et justement, il y a quand même des processus là, de revalorisation du Saint-Laurent. Puis, est-ce que toi, ben, premièrement, qu'est-ce que tu penses de nos poissons du Saint-Laurent? Puis, est-ce que tu te connais un peu? T'aurais-tu, genre, tu connais-tu des espèces que tu dis ça, là, genre, c'est tellement une belle espèce qu'on a au Québec, que les Québécois mangent peu? Ou, tu sais, as-tu des suggestions à nous faire?
Oui, bien, dans Saint-Laurent, je te dirais que je suis en processus un peu d'éducation sur ça. C'est des produits aussi que... c'est comme plus difficile d'accès en ce moment, mais c'est comme plus complexe.
C'est tellement cave. C'est difficile d'accès, c'est dans le Saint-Laurent. Il n'y a aucune logique.
Aussi, là, ça peut sembler niaiseux, mais c'est vraiment difficile de faire connaître des produits aux gens. Tu sais, d'avoir des nouveaux produits, puis de faire comme « Hey, ça, tu vas nous cuisiner ça à soir, là. » Non, là, les gens,
c'est juste, cool. Andrea, juste le tofu, là. Mettons, ouais. Le tofu, ça fait combien de tant qu'on a ça, tu sais, au Québec, puis les gens, tu sais, nous, nos générations, on est plus jeunes, fait qu'on a un petit peu plus grandi en étant exposé à ça, là. Mais, tu sais, dis aux personnes 50 ans et plus de manger du tofu, là, sont encore réfractaires, là. Fait qu'imagine, là, en plus, un poisson, puis dans le Saint-Laurent, déjà là, les préjugés des gens à l'égard des pêcheurs dans le Saint-Laurent sont quand même très, très présentes, là.
Ouais. Ça, c'est difficile, mais je te dirais que, tu sais, on a vraiment des beaux produits au Québec, là, comme... de très durable, je veux dire, par exemple, l'onde de chevalier, là, ça, c'est en pisciculture, OK? Puis ça, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que la pisciculture, ben, c'est dans des bassins, là, fait que, c'est vraiment pas dans l'océan. Fait que ça, c'est super durable comme production. Puis l'onde de chevalier, par exemple, là, c'est vraiment un superbe poisson là, qui, pour certains, par exemple, peut ressembler un peu à la truite. C'est super bon autant pour nos corps que pour la planète. Fait que moi, j'aime beaucoup consommer ça. Ironiquement, moi, je suis allergique à tous les crustacés et fruits de mer. Plus ça, j'en mange pas, mais tu sais, les crevettes qu'on a ici, le crabe, en tout cas, le crabe a été très cher encore cette année, mais le homard. Vraiment, tu sais.
Le sébaste, je pense, hein, qui est en grande quantité dans le Saint-Laurent, là, qui serait intéressant à découvrir. Ouais.
Définitivement. Puis aussi, c'est les moi, je parle aussi des... En fait, j'offre aussi des produits du Canada, en fait, là, en Colombie-Britannique, qui a vraiment des superbes pêches dans le Pacifique. Tu sais, tantôt, comme pourquoi je parlais de l'aquaculture de saumon, ben c'est sûr que le saumon sauvage du Pacifique, c'est vraiment une belle option, puisque c'est des pêches sauvages très durables. Mais si demain matin, tout le monde se mettait à manger du saumon sauvage, là, ça fonctionnerait pas. Fait que, tu sais, l'aquaculture, c'est pas parfait, mais c'est une solution qu'on n'a pas le choix d'avoir en ce moment. Puis là, j'ai goût de dire, parce que c'est notre faute, on en mange tout trop, tu sais, du saumon. Mais c'est bon pour la santé, il faut continuer à en manger. Mais c'est ça, au Québec, il y a vraiment d'autres produits à découvrir, puis à consommer davantage. Tu sais, les produits que j'ai nommés, c'est pas des produits tellement plus chers que le saumon là, que tout le monde mange. Tu sais.
Ah, vraiment intéressant. Puis si on veut découvrir tes produits, Andrea, si on veut te trouver, si on veut s'éduquer à travers tes plateformes, on peut te trouver où?
Donc, le site, c'est le www.réservelocale.ca. Puis, on a une page Facebook aussi, puis Instagram. Là, puis, on est super actifs sur les réseaux sociaux. J'essaie vraiment là, le plus possible d'éduquer là, les gens sur vraiment tous les sujets qu'on vient de discuter. Puis en fait, on offre la livraison là, dans la grande région de Québec, puis en fait, toutes les villes sur le long de la 40 jusqu'à Montréal, donc la grande métropole aussi, puis vraiment là, tout ce qui est autour de Montréal. Puis si on ne livre pas dans votre région, ben, contactez-nous, puis on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire.
Ah, wow, très cool. Hey, ben, merci beaucoup. Puis là, je sais que clairement, on aurait pu parler toute la journée, là, mais y a-t-il quelque chose avant qu'on se laisse que tu dis, hey, ça, il faut vraiment que je le dise, ou y a-t-il quelque chose sur quoi tu aimerais conclure, ou tu penses qu'on a fait un beau topo?
Ben, je trouve qu'on a fait un beau topo, mais on dirait que j'ai le goût de laisser les gens sur une note optimiste. Il y a tellement de belles fermes maintenant au Québec. Il y a des belles pêches aussi. Il y a des belles nouvelles productions. Ça vaut la peine de s'informer puis de s'éduquer. T'sais, c'est tellement important de s'éduquer à ces sujets-là. On parle beaucoup ces temps-ci d'auto électrique, de consommation, mais notre assiette a tellement une empreinte environnementale importante. Mm-hmm. C'est important de s'éduquer, de questionner l'épicier, le poissonnier, de questionner les gens sur la provenance, mais la façon dont nos aliments sont produits. T'sais, c'est toujours important d'avoir cette pensée-là. Puis, ben, encourager local. Je reviens sur une belle statistique, là. Mais si on consommait tout 30$ de plus par année en produits québécois là, alimentaires, là, puis ça, c'est une statistique par le ministère, là, on injecterait 5 milliards et plus en 5 ans là, dans notre économie. T'sais. Fait que
faut consommer. J'aimerais ajouter à ça aussi que des fois, c'est un défi pour les gens de cuisiner, mais j'ai l'impression que quand tu es allé chercher un produit de qualité que tu as envie de valoriser, tu as envie de le mettre en valeur dans ton assiette, tu sais, ça. Déjà là, on dirait que ça donne plus le goût de le cuisiner. C'est un produit qui a reçu de l'amour, que toi, t'as choisi, t'as pris soin, qui est en cohérence avec tes valeurs. Fait que ça donne le goût de le manger. Puis ça donne le goût aussi de bien l'apprêter dans une assiette qui est saine pour toi aussi. On dirait que ça te met comme dans un cercle positif. Là.
Ouais. J'ai le goût de dire une planète en santé, les humains en santé. On peut pas les séparer. Fait que plus vous allez vous intéresser à qu'est-ce qu'une alimentation saine, ben inévitablement, vous allez rencontrer les sujets de durabilité puis de responsabilité environnementale.
Hey, merci, super intéressant, Andrea.
Merci à toi.
Bonne journée.
Merci de m'avoir reçu. Bye.
Bye.
Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux Van Nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com. Bye!